Donc bonjour à tous, merci d'être venus donc, pour cette lecture, présentation de la revue SIC. Je tiens d'abord à remercier évidemment la librairie Mola de nous accueillir ce soir, enfin cette fin de journée, pour cette présentation de la revue SIC, et je tiens à remercier aussi les trois comédiennes qui sont venues pour lire des textes de notre dernier numéro, le numéro 8, qui est paru en janvier de cette année. Je vous annonce en gros comment on va fonctionner. Je vous propose en fait d'alterner trois temps de présentation de la revue, en gros notre fonctionnement, ce qu'on cherche à faire, les objectifs de notre revue, ce qu'est aussi être une revue et la place que prend la poésie, puisqu'on est invité dans le cadre du printemps de la poésie dans notre revue. Et en alternant en fait ces temps de présentation avec des temps de lecture de textes uniquement du dernier numéro. Donc en fait, la revue SIC, certains ici la connaissent déjà, est une revue littéraire, de création littéraire et de création graphique. Une revue étudiante, autodidacte, qui est née il y a 4 ans, par des étudiants qui ne connaissaient rien à l'origine, vraiment, du monde de l'édition et même des pratiques éditoriales. Nous avons fait depuis, dans ces 4 ans, nous avons fait 8 numéros, à un rythme entre 2 à 3 numéros par an, qui montre un peu la pérennité en fait de notre revue et sa capacité à exister quand même dans le petit paysage éditorial bordelais. Enfin, nous essayons en tout cas d'exister. Et notre revue aujourd'hui est disponible à Bordeaux comme à Paris. Et nous sommes nés en fait du désir véritable de créer une sorte d'espace de liberté, une sorte d'espace de création assez libre où nous pourrons éditer vraiment ce qui nous plaît, ce qui peut nous enchanter, d'une certaine manière, et sans barrière et sans thème. Notre revue, à chaque numéro, ne publie que des textes, qui sont à chaque fois des textes inédits, qui se regroupent, en fait, par leur actualité, le fait qu'ils aient été créés dans un instant proche du moment de production de la revue. À aucun moment, nous cherchons à imposer une cohérence à l'avance, donc pas de thème. Mais nous cherchons simplement à recréer a posteriori en fait une cohérence entre les textes en mettant en synergie des textes qui au début ne se connaissent pas évidemment, mais qui vont se rencontrer au sein d'une même structure, donc la revue SIC. Nous n'avons pas de thème et nous n'avons pas non plus de barrière ou de manifeste véritable qui pourrait diriger nos choix éditoriaux. Nous publions aussi bien des textes qui se présentent comme finis, véritablement élaborés, aussi bien que des brouillons où il pourrait encore y avoir du travail. Parce que ce que nous cherchons vraiment, c'est créer, comme je le disais, un espace de création. Et ce qui permet après de créer une cohérence entre ces textes qui nous arrivent et qu'on essaye de relier entre eux, c'est notre graphisme, un graphisme qui est sériel. C'est pour ça qu'on a aussi une revue de création graphique. Parce que nous pensons qu'on peut placer, avec les mêmes normes de présentation, un poème, ou des vers en tout cas, avec de la prose, avec pourquoi pas un texte de réflexion, tout cela entrecoupé par des dessins, des photos, un graffiti ou je ne sais quoi encore, un espace véritablement libre. Voilà ce que nous essayons de créer. Donc voilà, ça c'est en gros le projet global. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Et en tout cas, c'est notre idée qui est assez simple, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, c'est celle-là. Donc, je vous propose un premier texte lu. Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui choisis les textes lus, mais c'est un texte que j'ai écrit, voilà. Donc, ça fait beaucoup de moi-même, quoi, dès le début. Et c'est donc Florence Marquier qui va lire un texte qui est paru dans le dernier numéro, qui est une nouvelle, donc qui est une nouvelle assez relativement longue par rapport à la taille de la revue, qui sera évidemment pas lue en entier. Donc c'est un extrait, c'est le début, je crois.
Oui.
Voilà, du texte que j'ai écrit donc dans cette revue qui s'intitule Les mains. Et voilà, donc je laisse Florence lire.
Chambre 124. Inspection générale. Le soleil qui frappe sur la baie vitrée à contre-jour. Les contours de la côte basque seuls sont perceptibles. Regard grand angle sur la chambre, rien. Estimation du travail à 10 minutes maximum. Parfaite ouverture de la baie vitrée latéralement. Laisser passer l'air et provoquer le courant d'air avec la fenêtre ouverte maintenue comme telle par le placement du chariot à l'entrée. Drap retiré, remplacé, tiré. Nettoyage des surfaces. Changement des poubelles, aspirateurs, échanges, cendriers, salle de bain, retrait des draps de bain, remplacement, nettoyage des surfaces, nouveaux échantillons, shower, gel, shampoing et conditionneur, vérification papier toilette, papier hygiénique, bonbons bienvenus près de la télévision, éteinte d'un coup sec sur le bouton poussoir, nouvelle inspection rapide, grand angle d'un hochement de tête de contentement. Tout est OK. Suivante. Chambre 126. Du pareil au même. Je passe d'une chambre à l'autre. Les sens agressés par les essences violentes des produits désinfectants que je passe chaque matin depuis 2 ans sur les tables, les dessertes, les tables de nuit, le mobilier des salles de bain. Je passe d'une chambre à l'autre sans savoir où tout cela me mène. Je passe d'une chambre à l'autre et parfois je fais une halte chez eux. Je vois d'un coup d'œil détourné de mes gestes tant coordonnés et réglés qui ne font plus appel à ma raison. Je vois tout d'un coup d'œil détourné et déposé sur les reliques. Je m'inspire d'eux à me nourrir d'eux pour m'échapper de Martin qui lui pompe toute mon énergie. Alors chaque jour je me nourris le matin, je m'épuise le soir comme une pile infinie et à trop tirer sur la corde pour beaucoup ça lâcherait, mais pas pour moi, non pas pour moi. Je vaux plus que ça. Papier, toilette, papier hygiénique, bonbons, bienvenue, tout est OK. Suivante, 131. Du pareil au même. Aux yeux des autres, mon travail n'a rien de gratifiant. Ce n'est pas un métier. Je n'ai pas besoin d'aucun savoir-faire, mais on a besoin de moi. Alors je le fais, oui, je le fais. Et même très bien. Je reçois régulièrement les félicitations de la direction. Nous travaillons pour une enseigne très chic, vous savez, mademoiselle Catalin. Et nous vous félicitons de vous compter parmi nos employés, car vous représentez pour toutes vos collègues un exemple de professionnalisme. Ce que je veux dire par là, mademoiselle, c'est que vous êtes efficace et consciencieuse, soit les qualités exactes de votre poste. Voilà ce qu'ils m'ont dit dernièrement entre deux battants de porte, entre la laverie et les cuisines ou la chaufferie. Enfin, je ne sais plus très bien. Je m'étais entretenue avec Marie de ce sujet. Marie Vasseur, 27 ans, réceptionniste. Je m'entends très bien avec Marie. J'étais allée la voir à propos de ces félicitations répétées qui m'inquiétaient, car trop fréquentes et surtout curieuses envers une employée dont le remplacement est si aisé, même s'il est vrai que je fais bien mon métier avec efficacité et consciencieusement, car j'aime mon travail. Marie m'avait dit avec assurance qu'il n'avait pas lieu de s'inquiéter, qu'elle aussi avait régulièrement des félicitations de ce type. C'est pour te maintenir sous pression, t'inciter à en faire davantage, te montrer de la considération sans dépenser un centime. J'étais d'accord avec elle sur toute la ligne. Je n'ai jamais été dupe de cette hypocrisie et pourtant, je m'accroche encore à ces félicitations qui me confortent, il est vrai, et c'est déjà beaucoup. Je n'ai aucune condition salariale, je n'ai que des conditions, je pense, et tout compte fait, je m'en contente aisément. Mon travail m'offre les voyageurs. Une part d'eux-mêmes. Et ce que je préfère par-dessus tous, c'est saisir les odeurs de leur présence, sentir les effluves de leur trajet, d'avant à maintenant, retenir une part de leur histoire pour en nourrir la mienne, sans supposer là le temps d'un passage de 10 minutes, le temps d'effacer mon forfait en retournant, puis en dressant votre chambre, papier toilette, papier hygiénique, bonbons, bienvenue, tout est OK, 137. Mon travail m'offre des proies. Je viole des existences avec l'aisance du malfaiteur commandité car je réalise dans un cadre prévu à cet effet. Il s'agit de mon métier que je fais efficacement, consciencieusement, bref, avec professionnalisme. J'agis avec assurance car je suis légitime. Je viole comme une femme viole en recevant suivant son seul désir. Je me nourris car des quelques traces que je trouve, je crée et je ressens de l'épaisseur. Ce que je ne retrouve plus, sauf à quelques rares moments, chez Martin. Sa présence comme ses odeurs se délite en mon esprit et je me vois, quelquefois presque coupable, à rechercher dans ma mémoire le témoin de ton parfum. Le parfum de ta peau, Martin. Mais je ne trouve pas et je panique. Et coupable, je me laisse aller et je m'emplis de toutes les odeurs qui me passent sous le bras. Je me dis que je cherche la tienne, Martin. Mais non, je me mens. Et alors, je te mens, coupable, coupable, coupable que je suis et que tu es à avoir laissé filer ton odeur. Alors, par désespoir, je sens l'odeur des pneus chauffés du bus passant devant mon arrêt. Je sens l'essence agressive du chèvrefeuille portée par un léger vent marin depuis le parc. Je sens tout ce que je trouve pour oublier à jamais ton odeur, Martin. Je sens et je me mens car je crois chercher, mais je sens, Martin, car tu ne m'as jamais respiré. Tu m'épuises, tu me siphonnes, mais jamais en fait tu n'as connu mon odeur. Tu te nourris de moi, Martin, parce que tu ne me connais pas, parce que je n'existe pas, parce que je n'ai pas d'odeur pour toi, Martin. Je sens, Martin, je sens sans cesse, et quand je ne m'y attends plus, je sens ton odeur, ta présence, revenir au quart de tour. Je sens le souffle chaud sur mon épaule de ta présence que je ne supporte plus, Martin. Tout est OK.
Merci. Je pense que ce qu'il y a d'essentiel vraiment à développer dans une présentation de ce type, sur notre production, qui est la revue SIC, c'est d'exprimer vraiment ce qu'est une revue. Parce que depuis le début, lorsque nous avons commencé ce travail éditorial, qu'est la revue SIC, nous sommes vraiment interrogés sur... C'est une réflexion véritablement sur l'objet qu'est la revue. Parce que c'est un objet particulier dans le paysage éditorial. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un recueil. Nous ne la voyons pas non plus comme un objet... de promotion pour la traduction. Il y a des revues qui le font déjà et qui le font très bien. Il y a des revues de création littéraire qui le font déjà et qui le font très bien. Et nous interrogeons vraiment sur faire une revue de création littéraire et utiliser, exploiter au maximum, en fait, les spécificités de l'édition d'une revue. Donc, j'essaie de m'expliquer parce que, vraiment, ça, c'est quelque chose, pour ma part, enfin, j'y tiens, c'est que la revue, son essence, est à trouver, en fait, dans son rapport au temps, à la temporalité. Il y a un impératif de production, comme dans un magazine, comme dans un journal, sur un temps relativement plus long, certes, mais le temps d'écriture est un temps long. Et par rapport au temps d'écriture, le temps de production d'une revue, faire 2 numéros par an, c'est un temps qui déjà est relativement court. Ce rapport à la temporalité est donc vraiment le cœur même de la production. Pourquoi ? Parce que c'est là où, alors que nous n'avons pas de thème, comme je le disais tout à l'heure, à chaque numéro, nous recevons des manuscrits, nous les publions, point. C'est là où on peut trouver véritablement une cohérence, qui est accompagnée, comme je disais aussi tout à l'heure, par le graphisme. Pourquoi une cohérence ? Parce que je pense que si on reçoit des manuscrits qui ont été produits dans un même moment, dans un même temps social, ces manuscrits entre eux vont avoir nécessairement des relations, vont avoir des échos. Je pense qu'on peut en trouver. Alors, pas toujours, dans certains numéros, on va avoir 2-3 grands groupes de textes qui se recoupent. Mais on arrive toujours à retrouver, c'est peut-être arbitraire, peut-être que c'est facile, mais je pense quand même que ce n'est pas le fruit totalement du hasard, et on arrive quand même à retrouver comme ça 2, 3, 4 grandes lignes de force par numéro. Et ainsi, produire une revue, c'est non seulement produire des textes, évidemment, mais c'est aussi saisir une actualité, saisir un temps qui passe comme ça. Et c'est une sorte de photographie d'un instant, d'un temps de création. Et voilà pourquoi je pense que produire la revue, en produisant essentiellement des textes, qui sont tous des textes inédits, qui sont des textes généralement fraîchement écrits, c'est vraiment aller au cœur des procédés de transformation de l'écriture. C'est dans l'éditorial, bon, les éditoriaux, je ne vous cache pas, je ne suis pas journaliste ou même éditorialiste, donc je les écris, parce qu'on considère comme on se rattache vraiment... au domaine de la revue, donc aussi en arrière, en fond, à tout ce qui est l'édition périodique, je pense qu'un éditorial est bienvenu, même dans une revue littéraire. Donc j'en écris un. Et c'est pour se rattacher à cela. Bon, c'était une digression. Et donc dans cet éditorial, que je n'ai pas, bon, j'ai pas réfléchi pendant des mois pour le produire, mais il m'est venu ça. Je pense qu'on peut appeler ça, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu bête, mais une forme de... La revue pourrait être une sorte de littérature moléculaire, quoi. À la même manière qu'à la gastronomie moléculaire. C'est-à-dire qu'on recherche véritablement, en étudiant vraiment un processus de création, à retrouver les outils de transformation du réel, d'une actualité, en fait, par l'écrit et donc dans ce qui peut prétendre à être œuvre, en fait. Bon, je ne sais pas si ce que nous faisons, ce sont des œuvres ou une œuvre, mais quoi qu'il en soit, ça peut peut-être prétendre à l'être. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et ce processus de transformation, pourquoi on peut appeler ça littérature peut-être moléculaire ? Dans le sens où il y a une décomposition du mouvement. Une décomposition qui passe par plusieurs choses. D'abord, il y a un noyau d'auteurs relativement régulier au sein de la revue, d'un numéro à l'autre. Donc on suit l'évolution créative, ou créative, d'un auteur, d'un numéro à l'autre. Son évolution d'écriture, même si tous les textes ne sont pas forcément toujours réussis, mais ça, nous, on s'en fiche. Ce qu'on cherche, c'est à montrer véritablement un travail qui se fait et qui se donne comme ça, dans le temps présent, et que l'on peut voir en train de se réaliser, comme si le lecteur qui nous suit d'un numéro à l'autre peut se plonger un peu comme dans un atelier avec une œuvre qui est en cours de production. On ne prétend donc pas avoir véritablement des œuvres finies, mais vraiment quelque chose comme ça qui passe et qui se construit peu à peu. Aussi, il y a au sein même, si on prend, ça c'est un auteur suivi d'un numéro à l'autre. Et ce processus de création, cette étude, on le retrouve également dans un numéro en lui-même, ou d'un numéro à l'autre, entre les différents auteurs. Parce qu'en ayant un noyau d'auteurs réguliers, ça fait que les uns se lisent par rapport aux autres, et chacun se nourrit l'un à l'autre. Et on peut voir les transferts en fait, qui se font, les transferts, ce travail sur la matière, et qui, en fait, se... Oui, des transferts de création et ces échanges d'outils, en fait, entre les auteurs. Et c'est pour ça que je pense que, je dis ça parce que c'est des fois on a déjà reçu des critiques, comme quoi on retrouve ceux qui font partie du comité de lecture de la revue sont les mêmes qui sont édités. Donc il y aurait, comment dire, une sorte d'inégalité de traitement entre ceux qui font partie du comité de lecture et qui sont édités et ceux qui nous envoient des manuscrits qu'on n'édite pas forcément, enfin on n'édite pas tout le monde qu'on reçoit, évidemment. On fait un choix, mais on fait un choix aussi entre nous, hein. Évidemment. Mais nous avons déjà reçu des mails et des critiques disant donc que peut-être qu'on facilite. Pourquoi on éditait en fait toujours un peu les mêmes. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que là, publiquement, il est important de le préciser. C'est parce que nous tenons, on est parti sur un noyau, on pense que ce noyau-là peut avoir à certaines. C'est peut-être prétentieux de le dire, parce qu'on se connaît entre nous, mais à certaines potentialités et qu'on veut voir ce que ça peut donner dans le temps. Et quand on a un auteur qui nous envoie un manuscrit, un auteur qu'on ne connaît pas du tout, un texte sera lu tout à l'heure, c'est un manuscrit qu'on a reçu, je n'ai jamais rencontré cette personne, mais il est ravi d'être publié, on est ravi de l'avoir publié, mais j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Le but, c'est qu'il y ait des auteurs nouveaux qui viennent comme ça, mais qu'il y ait un travail sur la longue durée, toujours dans ce rapport au temps, parce que je pense vraiment que l'intérêt de la revue, exploiter l'intégralité des potentialités d'une revue, c'est ça. C'est travailler, c'est une œuvre qui se fait dans le temps. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est vraiment quelque chose auquel, enfin, je pense que c'est vraiment un élément important dans notre travail, parce que bon, est-ce que c'est un travail. On est étudiant, on fait ça à côté, mais c'est un travail et c'est une réflexion qu'on mène. Et bon, je ne sais pas si ça va bien loin, mais on essaie en tout cas de la mener. Voilà. Donc, je vous propose là trois textes. Là, carrément trois textes pour le prix d'un. Trois poèmes, avant de revenir donc, sur la poésie en elle-même et parler de la poésie et la place que prend la poésie dans notre vue, puisque, comme je disais, on a été invité dans le cadre du Printemps des Poètes. Donc, trois poèmes qui ont été édités toujours dans le numéro 8. Ah oui, juste une remarque. On n'a pris que des textes du dernier numéro, toujours pareil, parce que c'est ce rapport à l'actualité dont je parlais tout à l'heure, hein, qui justifie ce choix. Voilà. Donc le premier texte sera lu par Suzanne Robert. Suzanne qui lira d'ailleurs des textes de Pierre Landette aussi à la rentrée prochaine au Petit Théâtre.
Au Petit Théâtre au de Chartres. Ouais.
Voilà. Donc là c'est un texte de Jean-Valère Baldacchino qui est là ce soir, qui est là, et qui s'appelle L'œil d'un soir. Voilà.
L'œil acéré sur le miroir, vue percée par elle-même. Est advenu le temps de la perspective de soi. Le visage se fige d'argile, les ailes du temps se suspendent, la pellicule d'images en mouvement défile d'un pas géant. Les cartes sont jetées sur le tapis de jeu, le pari d'une aventure est engagé, aucun changement est dorénavant possible. La fin comme seule porte de sortie.
Merci. Suzanne. Je ne sais pas trop comment faire dans ce cas-là, parce que c'est la troisième lecture qu'on fait. À chaque fois, je n'ai toujours pas trouvé de solution à la fin du texte, quelle est la bonne formule. Enfin bon, je ne sais pas. Si quelqu'un connaît l'usage, voilà, si vous pouvez me le signaler à la fin, s'il vous plaît. Donc, Florence va nous lire un deuxième poème, toujours de Jean-Valère Baldacchino, Le dernier vol, voilà, qui est un texte qui a été écrit en hommage ou en pensant à Antoine de Saint-Exupéry.
À l'heure du zénith, en un jour d'été, le ciel jouissait d'un corps sans nuages. La mer était d'azur au large de la Corse. Des fusils fleuris convoitaient la Provence, coiffés d'un casque sombre et privés de lumière. Liberté est un mot qui se paie au plus cher. Un large oiseau d'argent et d'alliage éclatant, pèlerin sans défense, tranchant les nuages, s'envola préparer une pluie de pétales. Le lightning apparut à l'ouest de Nice, pénétrant la beauté d'un corps bleu et gai, tournoyer le soleil, la terre et l'horizon. L'appareil filtra avec les reliefs, près des arbres, près des pierres, près des cris de la mort qui retentirent peut-être de faucheuses d'acier. L'appel de Cabri ou l'appel d'Aget, violente nostalgie, désir du trépas, l'énigme disparut à jamais dans les eaux.
Merci, Florence. Et donc un troisième poème, toujours du numéro 8. Donc c'est Magali Marais. Magali Marais, je connais ton prénom, mais pourtant de famille. Magali Marais, donc « À doux serpent » de Pierre Landette.
Voilà. C'est très intimidant de lire de la poésie, et d'autant plus quand les auteurs sont dans la salle, je vous assure. Et en même temps, je crois que c'est très important de lire de la poésie à haute voix. S'il y a des amateurs de poésie, j'imagine qu'il y en a aujourd'hui. Parce que ça révèle à voix haute voilà, une richesse qu'on n'a pas à la lecture. Ah, doux serpent, toi le plus pneumatique de tous les animaux, archonte divin, auteur d'un monde fangeux. Ton œil amer me tire de la boue à l'âme, et le jardin enchanté de ta langue bifide me fait ouvrir la gueule pour dévorer la pomme verte de ton péché originel et cracher mon venin sur ta création ratée et glisseuse. Ah, doux serpent, toi le plus pneumatique, roule et va l'amble sur la soie du sillon de ta mue.
Voilà. Donc, merci. Donc, après ces trois poèmes, donc, nous en arrivons donc à la poésie, qui occupe, depuis le début dans notre vue, une place importante dans la part des textes édités. Je ne sais pas si on devait mesurer, ce serait un tiers, à peu près. Un peu moins dans ce dernier numéro, certes, mais une place quand même relativement importante. Ce qui n'est pas chose si courante que ça. Tout de même. Donc, vu la place qui même est laissée à la poésie, que ce soit dans l'édition, que ce soit dans les librairies, c'est rare que la poésie occupe déjà un tiers de l'espace, qu'il soit un espace de papier ou un espace physique. Pour nous, on n'a pas fait une revue uniquement de poésie, on a toujours intégré la poésie avec d'autres formes d'expression. D'ailleurs, si vous prenez dans notre table des matières, dans nos sommaires, où nous présentons les textes. Nous mettons toujours évidemment le titre avec le nom de l'auteur, mais après, on distingue en fait la catégorie du texte. Et on a cherché, de la même manière qu'on n'a pas de thème, on a cherché à avoir les catégories les plus souples possibles et celles qui permettent le plus d'avoir qui font les barrières les plus souples, que ce ne soit pas des murs véritablement, des catégories avec des murs, mais les plus souples. C'est pour cela qu'on présente les textes selon qu'ils soient en vers ou en prose. Ce qui fait que la nouvelle qui a été lue par exemple tout à l'heure, ou les deux nouvelles qui seront lues à la fin, enfin les deux extraits, sont classés en prose comme une poésie en prose le serait aussi. Et il n'y a que les textes en vers, là, qui sont véritablement distingués. C'est un choix et il se justifie par ce que j'ai pu dire avant. Replacer comme ça la poésie dans un cadre, un contexte créatif plus global, c'est peut-être la redynamiser aussi, enfin l'intégrer véritablement dans le jeu de l'écriture et dans lui redonner aussi toute une place. Pas seulement être dans une tour d'ivoire où elle serait un peu séparée et regardant des fois peut-être un peu de haut les autres productions d'écriture. Je pense que, enfin, on pense un peu tous dans la revue que ce qui est un peu dommage justement, c'est de scinder autant et même le fait qu'il y ait, alors c'est très bien qu'il y ait le printemps des poètes et tout, c'est notamment dans le cadre de cette organisation que nous sommes là ici, mais le fait de scinder même dans le temps, enfin vous allez dire que je parle que du temps, mais dans le temps de l'année, un moment en fait totalement dédié à la poésie est une bonne chose dans le sens où ça met en valeur aussi la poésie, mais ça la sépare aussi de tout le reste. Or, je pense que la poésie a toute sa place, mais partout, tout le temps. Enfin, il n'y a pas un temps spécial, normalement, à dédier à la poésie. En gros, on fait la bonne action, c'est la BA de l'année, on fait le printemps des poètes, on a parlé de poésie, c'est plus la peine d'en faire. Voilà. Alors, c'est très bien, parce que ça ramène du monde aussi, je rejette pas les très bons côtés de la chose, mais on peut regretter quand même que, du coup, la poésie disparaisse, parce que le printemps des poètes, je sais pas, c'est 2-3 semaines dans l'année, 11 mois dans l'année, la poésie est relativement quand même absente. Il suffit de regarder les émissions littéraires à la télé. Quand est-ce qu'il y a un poète ? Même dans les émissions littéraires, c'est extrêmement rare. Des fois, lorsqu'il y a des poètes, c'est plutôt des chanteurs qui ont, ou des gens qui ont écrit ou composé des chansons qui passent là à l'écriture. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive. Ou un auteur, quelqu'un qui, en tout cas, s'est fait connaître par un ailleurs, en fait, créatif. Mais rarement, véritablement, un poète. Peut-être qu'ils sont simplement pas nombreux, mais même, ils devraient avoir plus de visibilité. Je pense qu'il y a beaucoup plus de poètes qu'on ne peut même le supposer. Voilà. Et ça, c'est peut-être un... Je ne sais pas si c'est un problème typiquement français, parce que de ce qu'on peut voir, les aperçus qu'on a de ce qui se passe à l'étranger, la poésie est bien souvent beaucoup plus vivante. Il y a même certains pays... Je ne sais pas, moi, quand je voyageais avec mes parents et tout, je me rappelle, enfin, c'est une anecdote, ce n'est pas forcément très intéressant, mais je sais que les gens qui enchaînent les anecdotes comme ça, enfin bon, bref, ça peut... Mais bon, j'étais petit, donc, et j'ai été frappé en allant à Lisbonne, qu'en rentrant dans une librairie, au hasard, n'importe laquelle, une librairie qui est relativement grande, ben, la poésie occupait, là, pour le coup, quasiment un tiers de l'espace. Et il y avait tout ce qu'on voulait, en traduit en bilingue portugais et la langue d'origine, ou les œuvres portugaises. Alors bon, nous, moi du Portugal, par Pessoa, franchement, je connais pas grand monde, je prétends pas avoir une culture. Voilà, mais là, il y avait un panorama de la poésie contemporaine et classique mondiale incroyable. Il y avait peut-être 2-3 éditions portugaises qu'il faisait. J'en ai un souvenir vague. Bon, j'étais petit, je sais que quand on est petit, on grossit un peu les choses, mais... En tout cas, cette image-là, si ça pouvait exister, je pense que ce serait une bonne chose. Et que même la poésie pourrait être dans n'importe quel rayon, en fait, finalement, peut-être, dans une librairie. Je sais pas, moi, dans la revue, j'écris souvent, je prends mon cas, je me permets de parler en mon nom, là, plus que peut-être au nom des autres, c'est assez plus facile, mais j'écris plus souvent de la poésie. Là, j'ai plutôt écrit une nouvelle, surtout, et un poème. Mais j'aime énormément, évidemment, la poésie, mais... Ma lecture principale, hormis les livres de politique, il y a la poésie, mais c'est aussi le polar, par exemple. Enfin, c'est vraiment le genre que j'affectionne le plus, et je le place très haut, quoi, dans ma hiérarchie. Je vois pas pourquoi, par exemple, on pourrait même avoir une poésie polar. J'en sais rien, c'est des idées, je sais pas. Mais je pense qu'on pourrait chercher à décloisonner un peu la poésie, sans forcément faire à tout craint, en quelque sorte, une poésie qui ne serait aussi qu'une poésie urbaine ou une poésie de rue. Il faut pas non plus, je pense, virer dans l'extrême inverse. Il y a les deux, quoi, et je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu. Voilà, c'est juste une parenthèse. Et donc, la poésie a une place importante dans notre vue, mais nous essayons, tant bien que mal, de la rendre vivante en ne la cloisonnant pas, voilà, dans notre vue. Je ne sais pas si on y parvient, je ne sais pas si c'est sensible quand on publie, quand quelqu'un a la revue entre les mains, mais en tout cas, quelqu'un qui lit la revue de bout en bout ou pioche dedans, il peut tomber... Voilà, comme ça, sur un poème ou sur de la prose, sans franchement faire, je pense, la distinction exacte. Il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il passe la frontière, en tout cas, entre les deux domaines. J'en suis pas sûr. Et enfin, je pense que ça... Mais il y a des exemples qui existent. Je ne pense pas qu'on soit les seuls. Je sais que cette revue, enfin ce magazine plutôt, qui paraît, qui change un peu souvent de structure, mais qui s'appelle Le Tigre, qui a changé encore, qui a été mensuel, je crois hebdomadaire, etc., qui maintenant est bi-hebdomadaire, il me semble, depuis un mois, a publié, alors qu'eux, ils publient aussi bien des articles d'enquête, vraiment des analyses sociologiques, des fois des calembours, etc. Et il y a aussi des fois des poèmes. Et le poème avait pris une bonne place, enfin une page entière, alors que c'est une production plutôt courte. Donc ça montre qu'au plus haut niveau, c'est tout à fait possible, et je pense que c'est une voie qui est souhaitable. Voilà. J'espère que ça va continuer à se développer, et du coup que la poésie reprenne toute sa place en fait dans la production quoi littéraire d'aujourd'hui. Voilà. Et parce que je à titre là, personnel, je pense que la poésie elle est une des plus à même justement à saisir l'actualité dont je parlais avant, parce qu'il y a ce travail sur le temps, il est vraiment dans la poésie. Mais là je retombe dans mes travers. Voilà, donc je vous propose donc une dernière série de textes à lire, deux nouvelles, des extraits et un texte en intégralité. Donc un premier texte lu par Magali, Biper Chokovski, de Benoît Rivera. Voilà.
Un extrait donc de ce texte qui parle donc d'un boxeur déchu. Je m'étais souvent représenté l'impact de mon poing sur la mâchoire de mon adversaire comme un temps indéfini, infini, qui concentrerait en lui-même le « comment on en est arrivé là » et son envers, la fin de tout. Mettre KO, c'était aller au-delà de la pulsion virile et au-delà de l'utile animal. Faire tomber l'autre d'un ultime coup, pour avoir l'honneur d'observer ce moment d'arrêt sur image, pour avoir le privilège de mettre en pause le déroulement du tout de la précipitation généralisée vers la destruction créatrice de tout, observer l'éclat gigantesque et fugace du tout pour le tout. Je m'offrais une parenthèse hors de prix en pétant la gueule d'un autre homme en dehors de toute volonté de vengeance. Je prenais le combat comme un processus de réinsertion en état de nature. Et je vous jure que j'y gagnais fort en courage. Et je suis sûre d'avoir laissé la peur de la mort au bord de ma route à 5 ou 6 reprises. Je me souviens d'ailleurs que je jubilais trop en regardant s'éloigner cet énorme chien noir qui s'étranglait après moi en tirant sa corde, son arbre et son territoire. Et alors que tout le reste du troupeau humain était resté sagement dans l'enclos qu'il gardait, le molosse n'en avait qu'après moi. Je ne me souviens jamais de la fin de cet état de grâce. Mais l'instinct de préservation revint invariablement. Je me souviens du courage qu'il me fallut à chaque fois pour ne pas me précipiter au chevet de mes adversaires. Et je résistais rarement à me plonger dans leurs yeux d'eau saumâtre désorientée. Mais j'étais en sueur d'y être restée trop longtemps et j'avais besoin d'une bonne douche. Tout est bon pour penser à autre chose quand on sait qu'en sortant dans la rue, il faudra croiser le regard des filles. J'ai toujours pensé que les hommes se battent pour oublier qu'ils sont mariés et que les hommes se battent pour aller pleurer dans de quelconques jupes la conscience tranquille. Il y a tant d'occasions de se battre quand on y pense. Et je plains les hommes bien éduqués qui n'ont d'autre choix que de se livrer à des combats dissimulés.
Merci. Et donc, nous avons un dernier texte pour aujourd'hui, toujours évidemment du numéro 8, qui sera lu par Suzanne. Une femme de seconde foi, de Laurent. Alors, j'ai peur d'écorcher son nom. Comme je dis, je ne le connais pas, je ne connais que par écrit. Donc, soit c'est Laurent Échegu ou Laurent Échegu. Nous n'avons conversé que par écrit. Donc, voilà. J'espère que il y a une des deux versions, au moins, qui doit être bonne, logiquement.
C'est un texte qui n'a pas de point, donc qui est assez difficile à lire, donc je m'y lance. La dent qui tombe dans ma paume, c'est gagné. Avec le sang que je crache, qui s'étoile sur le trottoir, c'est une belle promesse, le trou dans ma bouche. Parfait pour siffler un taxi s'il ne s'arrête pas avec ça. Un bras me relève. La galanterie à la rescousse. Il était temps que je l'éprouve, moi, la 5e roue du carrosse. 1 500 par mois, 10 années à faire le tour de mes compétences en triple banc.
Je me retrouve à pleurer, visage à la renverse. C'est l'hémorragie nasale. Pince-toi la narine, appuie fort si tu veux que cela cesse pour de bon. Voilà ce qu'aurait dit mon père. Et c'est ce que je fais, en flageolant. J'aurais pu crever ici, en bout de rue, à deux pas du souterrain, percuté par une camionnette, entre deux chantiers, rien à négocier, le devis est définitif. Quelqu'un pour m'attendre et prendre ma déposition ? C'est un refus de priorité qui a fait tourner ma rotule. Pas d'os écrasé, non, pas cette fois, mais le genou a plié. C'est l'inattention, la fuite des idées, le regard à gauche, furtif, pour la vie sauve. Un pas de recul ou un pas en avant, c'est une question de volonté. Il n'y a pas de hasard passé 18 heures, c'est terminé. Tous les atouts ont quitté la table. Je n'ai plus qu'à visualiser la trajectoire. À plus de 60 km/h, c'est ma tôle qui se froisse, se replie, fait des vagues. Et je plonge, fissurée, un pare-brise, mâchoire ouverte. Une fois retombée, je sais qu'il n'y aura plus personne pour m'embrasser. C'est une impasse, ce choc, qui me déplace le bassin. Rien de grave, non, il me faudra juste apprendre la patience. De longs mois à compter sur les doigts de la main avant de me détacher des perfusions pour étreindre quelqu'un d'attentionné, avec un corps rassurant. À moins que tout cela soit de l'histoire ancienne. Avant la douleur et les mots inquiets, de passants déroutés. Cette douleur qui fige la jambe et les regards. Cette douleur qui accompagne le plaisir de marcher seul vers une chambre, rendez-vous secret, pour être deux, dire mon amour et craindre l'abandon, encore, qu'il puisse s'échapper en balbutiant de vagues excuses honteuses, regard tombant, qu'il ose se détourner de mes cicatrices de femme de seconde fois, pour me faire vivre une rupture par accidentelle, ici, n'importe où, sur la rive gauche, il s'éloigne, il ne se retourne pas, il me laisse traîner la patte jusqu'au métro pour accoucher d'une injustice qui tombe à l'eau. Et c'est le tourniquet que j'insulte, lui qui ne veut rien entendre, qui tente de me laisser à la frontière d'une vie ratée. Et je me plie, je me courbe, je crache, je pleure, je saigne sur une main tendue. Il y a quelqu'un que je peux appeler ? Demande une voix affolée qui me passe par-dessus la tête. Non, il n'y a personne de disponible à cette heure. Mais brave, quand même, celui qui me relève. Pas obligé de le faire, non ? De tirer mon bras vers l'arrière pour naviguer à vue. C'est beau, ce geste à saluer. Talon sur le recul, mais je ne souris pas. Je prends juste appui en le remerciant. Dans un équilibre qui ne tient pas, c'est désolant pour moi, pour tout le monde, de s'afficher, physique en échec et cœur tire larmes. Pas beau à voir, pense la famille des commandants ces samedis soirs. À venir, voix tournant, la peine en boucle, oubliant la nuance comme j'oublie à pudeur. Il ferait mieux de tous se souder pour me financer un sort meilleur auquel je pourrais trinquer, bien accompagné, et ainsi me profiler une nuit de noces comme jamais dans le sud-ouest, porter un toast aux chimères post-opératoires qui n'ont pas oublié de se pencher sur le berceau métallique de la femme perfusée, perdue dans un sommeil entre deux, détournant les murmures rassurants comme les consignes de vol sud-sud-ouest. Le temps est au beau fixe pour le tertiaire parisien. 21 degrés dans les bureaux du 17e jusqu'à 16h30. Je vais pouvoir avancer à découvert. En quête de signatures bénies pour mes courriers types, alignés dans des parapheurs usés jusqu'à la moelle, qui n'en peuvent plus de collecter des empreintes de juristes interchangeables. Mais je sais qui je suis, moi. Je suis la secrétaire amen de l'arrière-monde. Je ne me trompe jamais d'étage. Je connais ma place. Je retiens ma leçon. Parfaite quand je débite la parole générique du troisième échelon méprisé. Main ferme sur le combiné, je tiens mon poste comme personne, même sous le feu d'une inhabituelle émotion. Et croyez-moi, je vous réserve à tous un chien de ma chienne. Je ne vais pas vous rater, c'est une certitude. La tête sur la moquette, les après les autres, priant vos mères dans une souffrance muette. Le modèle standard va courber les chines pour de bon. Les larmes aux yeux, c'est plus qu'un symbole, le tertiaire au tapis. La sueur perlant sur les fronts, la honte qui serre la gorge. Je veux vous entendre balbutier vos excuses fétides de connard fini. Ok, admettons que c'est la promiscuité qui nous a conduit à telle situation extrême. Sans espoir de retour, pas comme avant, plus comme avant, je n'y crois plus. Je n'en peux plus. C'est fait, c'est terminé. Je peux sentir le manque d'oxygène. Déjà, les idées s'éteignent violemment. Mes mains se figent sous un visage délavé d'homme encore jeune. Un visage qui, quoi, exprime la peur. Se fige dans la stupeur sur une vérité.
Merci. Et voilà, donc il y a bien sûr bien d'autres textes. Ce numéro 8 que je vous invite à découvrir, bien d'autres textes, et voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. que je vous ai pas trop barbé. Et voilà, parce que ce qui est important, c'est plutôt les textes. Moi, ce que je dis après tout, c'est peut-être moins intéressant. Merci beaucoup hein, de votre présence et merci à Librairie. Et merci aux comédiennes aussi, évidemment.